Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Visible. Ce mois-ci, j'ai eu le privilège de recevoir le sociologue Emmanuel Bobaty pour la sortie de son livre « Transfuge de sexe ». Un livre qui m'a bouleversé personnellement. Un livre qui aborde le genre au-delà de la simpliste binarité. C'est puissant. Vous retrouverez tout de suite les news de Julien et en fin d'émission, la chronique de Sophie. Elle vous avait promis du positif, vous allez être servi. Ah, aussi, dernière information, une surprise se profile pour un prochain épisode de Visible. On vous annoncera tout ça sur l'Insta et le Twitter de l'émission. Je suis Timothée et je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue.
Visible.
Visible. C'est parti. Bonjour Julien.
Bonjour Timothée.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de...
Alors, des avancées du projet de loi contre les thérapies de conversion et de la journée du 17 mai.
Tu commences avec la loi contre les thérapies de conversion.
Oui, nouveau couac à l'Assemblée nationale. Nous avons appelé Laurence Vonsenbrock pour comprendre un petit peu tout ça.
La parole est à Laurence.
Bonjour Laurence, merci de répondre à nos questions.
Bah, merci à vous de prendre contact, c'est gentil Tim.
Alors, vous travaillez depuis plus de 3 ans sur une loi visant à interdire les thérapies de conversion. On vous a reçu dans Visible d'ailleurs en décembre. Dernièrement, vous avez reçu le soutien sur les réseaux sociaux de nombreuses personnalités publiques. La semaine dernière, vous avez interpellé Elisabeth Moreno en charge de ces sujets-là à l'Assemblée nationale avec votre question. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement peut soutenir les victimes et condamner leurs bourreaux ? Elle vous a répondu, alors je résume, que l'arsenal judiciaire était suffisant aujourd'hui, alors même qu'elle s'était engagée à soutenir votre loi en octobre dernier. Cafouillage, erreur ou renoncement, qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, en ce qui me concerne, pour avoir contacté son cabinet, et elle d'ailleurs en direct, en fait, il ne s'agit pas du tout de renoncement. Hein. L'idée, c'est qu'effectivement, il faille, et ça, je pense que c'est nécessaire également, voilà, refaire publier une circulaire donc, aux services concernés pour que, enfin, les plaintes soient prises correctement, parce qu'on sait parfois la difficulté qu'ont certaines victimes à être reçues quand elles veulent déposer plainte. Mais le problème de la réponse de la ministre en fait, dans l'hémicycle, c'était surtout que le temps de réponse est très court. En fait, et elle voulait justement aborder le sujet de la PMA, elle n'a pas eu le temps non plus. Et en fait, voilà, je pense que c'était plutôt alors peut-être un petit cafouillage voilà, dû au fait qu'on n'avait pas spécialement le temps de répondre. Mais pour autant, j'avoue que moi, en tout cas de ma place, j'ai eu un petit coup au cœur aussi en me disant « Oula, mais que se passe-t-il » Parce qu'effectivement, dans son plan national, elle parle de la lutte contre les thérapies de conversion. Et donc là, je ne comprenais pas trop en fait de quoi il s'agissait. Mais au final, on s'est expliqué. Et elle soutient évidemment toujours ma proposition de loi. Et donc voilà, elle voulait juste faire un rappel en ce qui concerne les services de l'État.
Moi, en voyant tout ça, et du coup, je ne comprenais pas s'il y avait un cafouillage, s'il y a erreur. Dans ces cas-là, pourquoi les services ne disent pas « bon, c'est cafouillage et on revient » Parce que du coup, moi, je me disais, vous avez quand même, ça fait 3 ans que vous travaillez dessus, il y a une mission parlementaire, il y a votre loi que vous avez écrite 2 fois, il me semble, voire 3. Il y a quand même beaucoup, il y a un consensus autour de nombreux députés. Et moi, j'étais là, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi ne sert à rien, d'avoir travaillé dans le vide ou absolument pas? Vous êtes malgré tout soutenu?
Non. Cette loi n'est certainement pas une loi écrite pour rien. Et je vais me battre, comme je le fais habituellement, justement pour qu'elle soit inscrite à l'agenda. Maintenant qu'on sait qu'il y a une niche en décembre, je compte bien faire en sorte que ce soit le cas. D'autant que, comme vous le disiez, il y a effectivement un grand consensus autour de ce texte, autour de ce sujet. Alors déjà, parce que dans un premier temps, parce que ce texte a été repris donc, par l'ensemble du groupe de La République En Marche. Mmh. Et pour en avoir discuté avec certains députés collègues donc socialistes eux aussi n'attendent que ce moment pour en discuter dans l'hémicycle. La France Insoumise, on se doute bien qu'ils sont également avec moi puisque j'ai travaillé avec Bastien Lachaud, je le rappelle, sur la mission d'information qui a donc permis aussi de continuer à élaborer le texte de loi et les JDR, ce qu'on appelle le Parti communiste, en fait, eux aussi sont tout à fait partie prenante donc pour m'assister dans les débats. Donc, en fait, c'est un texte qui, finalement, pourrait être discuté et voté, en fait, en tout cas dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, relativement facilement.
Mmh, d'accord. Parce que, en fait, on a un peu le sentiment, depuis à peu près Nicolas Sarkozy, qu'on est dans une politique de l'émotion. À mes yeux, la loi sur le séparatisme en est un exemple. Et moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que cette loi dite des séparatismes, où d'ailleurs Marlène Schiappa a failli prendre les thérapies de conversion à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle a été écrite rapidement, elle a été votée très très vite, parce qu'il y a cette émotion d'un coup, alors que j'ai le sentiment en tant que gay et en tant que militant LGBT que quand il s'agit des minorités, il n'y a pas trop d'émotion. Et du coup, je me suis demandé si ce n'était pas une énième reculade sur les sujets LGBT au sein de l'hémicycle.
Après, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que historiquement, à part les socialistes qui, sous l'ancien mandat, ont quand même permis aux couples LGBT de se marier, même s'il y avait quelques contraintes, je rappelle quand même que quand on veut faire une famille, quand on est LGBT, voilà, il faut, enfin surtout LGBT, j'ai envie de vous dire, parce que l'été, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour les trans, exactement. Mais voilà, en fait, il faut maintenant, voilà, pour faire famille, être dans l'obligation de se marier. Et ensuite adopter ses propres enfants, donc c'est un peu ouais. tiré par les cheveux. Et pour autant, on ne peut pas dire que les socialistes ne soient pas convaincus de vouloir une société plus progressiste, justement pour les LGBT. Donc, et là, en l'occurrence, c'est la même chose en fait. Je pense pas qu'il y ait une volonté vraiment de taire ces sujets. Dans un premier temps, il faut aussi rappeler que la situation est particulière. On a déjà traversé la crise des Gilets jaunes, parce que j'aime bien rappeler la crise des Gilets jaunes, parce qu'en même temps, ça faisait déjà un moment qu'en fait moi je travaillais sur ce texte et que le Parlement européen avait enjoint les pays membres, les États membres, de légiférer justement contre ces thérapies, que l'ONU s'était prononcée également en indiquant qu'il s'agissait de torture. Donc, c'est quand même pas rien. Hein, quand l'ONU se prononce, c'est en général, ça a quand même du poids. Et voilà. Donc, en fait, je ne pense pas que ce gouvernement soit contre les sujets LGBT. C'est juste que malheureusement, voilà, on a été donc contraint de boucler certaines choses. Alors, peut-être, effectivement, comme vous le disiez, de légiférer parfois sous le coup de l'émotion. Alors moi aussi, je pense que c'est pas la meilleure façon de faire, parce que on va trop vite. Et peut-être que effectivement, il y aurait eu des choses à revoir. Mais par contre, pour en venir aux thérapies de conversion, à aucun moment il ne me semblait judicieux d'intégrer ces thérapies dans la loi sur le séparatisme, puisqu'en l'occurrence. Même si on touche à la religion, enfin même si la religion touche en fait à la santé mentale et physique de certains LGBT, il n'y a aucune volonté de séparatisme, en tout cas de leur part, c'est très clair.
D'accord. Et alors du coup, j'ai quand même une dernière question, parce que moi, je me souviens d'Emmanuel Macron en 2016 qui était progressiste sur les sujets sociétaux. Hier, c'était la journée internationale contre les LGBT-phobies. Alors, sur les réseaux sociaux, le pinkwashing à tout va, de tous bords. Tellement énorme que, moi, personnellement, je doute de certains. Et notamment, désolé, Laurence, de La République En Marche, parce que la PMA, ça fait 4 ans. Ça va faire 10 ans que les lesbiennes attendent, hein, parce que Hollande n'a pas eu le courage. Je pensais que Macron l'aurait. Pour le moment, il n'y a toujours pas, parce que la loi pour la PMA, ce n'est pas que permettre médicalement aux lesbiennes de pouvoir procréer, c'est aussi faire une vraie campagne de dons de gamètes. Ça suit beaucoup plus, parce qu'il y aura l'ouverture aux origines et tout. Et moi, je ne crois plus trop à la volonté.
C'est un sujet aussi, la filiation, c'était vraiment un sujet hyper important aussi.
Et du coup,
les 4 premiers articles du projet de loi bioéthique se touchent vraiment aux familles. C'est hyper important. Les 4 premiers articles sont vraiment, enfin, comme tous les autres articles d'ailleurs, mais je veux dire, mais en termes de PMA, c'est vraiment pour faire famille. En fait, on va dire que les 4 premiers articles sont vraiment emblématiques.
C'est ça, sauf qu'aujourd'hui, on en est où de la PMA? On a vraiment le sentiment, en tant que militant LGBT, que la volonté politique de La République En Marche concernant les LGBT, elle est vraiment loin, 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 en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer, ou est-ce que vous pouvez nous...
Alors oui,
contredisez-moi.
Dans un premier temps, je vais vous rassurer, effectivement, parce que le texte revient à l'Assemblée nationale tout début juin, donc il va y avoir une semaine de discussion avec la commission spéciale dont je fais partie, et ensuite dans l'hémicycle. Voilà, donc ça peut rassurer tout le monde, d'autant que là, pour le coup, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est prononcé sur une promulgation, normalement, donc par le président de la République, normalement courant de l'été, donc... Les procédures devraient pouvoir commencer à se mettre en place normalement en septembre, octobre, qui arrive.
D'accord.
Ensuite, okay. Autre question, il y avait une manière, non, non, parce qu'il y avait une autre partie dans votre question. Il fallait que je vous rassure, donc je vous espère que je vous ai rassuré.
Bah, moi, c'est, mais, moi j'ai l'impression que La République En Marche, elle était très centrale, ni de gauche ni de droite, mais que honnêtement, oui. Moi j'ai le sentiment qu'elle va un peu à droite sur ces sujets, qu'elle devient assez conservatrice et qu'on est un peu laissé pour compte, comme le PS nous avait fait de côté.
Non, après, je ne peux pas vraiment vous laisser dire ça pour le coup, parce qu'on a bien vu en première lecture que même si on n'était pas très nombreux dans l'hémicycle, malgré tout, les députés de La République En Marche qui étaient présents ont quand même majoritairement voté pour la PMA, contrairement à ce qui s'est passé là dernièrement au Sénat. C'était un peu une catastrophe.
Mais c'est long, quoi.
C'est très long, je vous le conseille.
Ok, bon ben écoutez, on va attendre début juin et suivre tout ça, et puis vous intervenez quand vous voulez au sein de Visible. Vous aurez toujours notre...
Ah ben d'accord, oui, ben écoutez, ben, je prends note, et puis j'aurai grand plaisir à vous rappeler si jamais voilà, je devais protester quelque chose ou au contraire vous rassurer et donc faire plaisir à la communauté LGBT.
Merci beaucoup Laurence.
De rien Timothée, à très bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'était l'intervention de Laurence. Et là, tu nous parles de la journée du 17 mai.
Oui, 17 mai, journée mondiale contre les LGBT-phobies. L'occasion de rappeler le chemin qui nous reste à parcourir et que de par le monde, nos adelfes continuent à être tués. Mai 2021, en Iran, Ali Fazeli Monfared, un jeune gay de 20 ans, a été décapité par son demi-frère et ses cousins pour laver l'honneur de la famille. Avril 2021, en Lettonie, Normunds Kinzulis, un homme gay de 29 ans, a été brûlé vif. Toujours en avril. Plus près de nous, en France... À Reims, Paula, une femme trans de 50 ans, a été violée puis égorgée. Le parquet a mégenré Paula tout au long de sa conférence de presse. Transphobie ordinaire retrouvée dans plusieurs médias écrivant « Paula » entre guillemets et parlant du meurtre d'un homme. Nos combats ne font pas encore partie de l'histoire. Le 17 mai, c'est aussi la journée du pinkwashing et de la récupération de nos luttes. Petit exemple, mon préféré, Valérie Pécresse qui a tweeté en faisant une belle capture d'écran de sa réunion avec les associations contre la LGBT-phobie. Alors pour rappel, Valérie Pécresse, c'est aussi une des premières supporters de la Manif pour tous et c'est aussi elle qui voulait nous démarier, je vous le rappelle. Sauf que, échéance électorale approchante, elle a fait le ménage dans son Wikipédia pour effacer toute trace de ça, hein, évidemment. Et maintenant, voudrait nous faire croire qu'elle a été un de nos soutiens de la première heure. Parce que bon, ça va de nous mépriser toute l'année, mais il ne s'agirait quand même pas de se priver de nos votes.
Merci pour ce point de vue que je partage. Lutte contre les LGBT-phobies, on en parlait déjà en 2019 dans l'épisode avec Lou Andréac.
Oui, le 11 mai s'est tenu le procès des agresseurs de Kevin. En 2019, comme tu nous l'avais déjà dit, l'homme de 31 ans a été victime d'un guet-apens. Pensant se rendre à un date, il a été tabassé quasiment à mort par trois personnes. L'une d'entre eux majeure au moment des faits vient d'être jugée et de prendre 4 ans de prison, dont 16 mois avec sursis. Les autres mineurs attendront de passer devant le juge des enfants.
Merci Julien, t'as quelques brèves aussi pour terminer.
Oui, la PrEP, le traitement pré-exposition dont je vous avais parlé la dernière fois, va pouvoir être prescrite par les médecins généralistes à partir du mois de juin.
Wouhou !
Voilà, bonne nouvelle. Sophie Delannoy, une femme trans très impliquée dans la défense des LGBT, est la nouvelle directrice générale du Refuge. Un très bon signal pour la Fondation, ça leur permettra peut-être de réfléchir avant d'intituler une table ronde sur la transidentité. Caprice ou nécessité. Ouais, caprice, vraiment.
Et on finit avec cette news que j'adore.
Oui, ouais, gros coup de cœur. Blanca, Angel et Electra sont de retour pour la saison 3 de Pose, la géniale série de Ryan Murphy qui avait créé l'événement au moment de sa sortie en castant des actrices trans pour jouer des rôles de femmes trans. Embarquées pour les aventures de la House of Evangelista dans le New York des années 80-90, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus.
C'est très beau, c'est très triste, mais c'est aussi très génial. Merci beaucoup, Julien.
Je t'en prie.
Place à notre invité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Visible. Je reçois aujourd'hui un docteur en sociologie qui a sorti un livre extrêmement puissant qui m'a bouleversé. J'ai l'impression d'avoir grandi et d'être en pleine métamorphose dans mes réflexions. Bonjour Emmanuel Beaupaty.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Alors, votre livre raconte les trans, les femmes trans, mais aussi les hommes trans. Il arrive dans une époque, je trouve, où aujourd'hui les personnes trans deviennent de plus en plus visibles, mais moins les hommes trans. Comment on explique ça ?
Alors, ça s'explique par différentes choses et notamment par le fait que les hommes et les femmes trans, ils n'ont pas tout à fait la même histoire. En fait, cette histoire, au XXe siècle, c'était avant tout l'histoire d'une médicalisation. C'est comme ça que les trans ont été véritablement connus et médiatisés. Au cours de ce XXe siècle, eh bien, les médecins se sont avant tout intéressés aux femmes trans. Mmh. Si on regarde la littérature médicale, on se rend compte que c'est la littérature qui porte presque exclusivement sur les femmes trans. Et de ce fait, eh bien, les hommes trans ont été connus beaucoup plus tard et moins bien connus par ailleurs, puisque leur visibilité n'a vraiment émergé que à la fin du siècle dernier, dans les années 90-2000. Mmh. Et de ce fait, eh bien, ils sont moins présents dans l'imaginaire commun.
Votre livre s'appelle « Transfuge de sexe ». Quelle définition vous donnez au mot « transfuge » ?
Alors ce terme, je l'ai emprunté à la littérature de sociologie sur ce qu'on appelle les mobilités sociales de classe. On appelle généralement transfuges les personnes qui changent de milieu social au cours de leur vie. Et en fait, je me suis rendu compte en commençant à lire ce qui se faisait sur les trans que le changement de sexe était rarement, voire jamais, considéré comme une expérience de mobilité sociale, au même titre que le changement de classe sociale. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en fait appliquer ce cadre théorique si le genre est un rapport social tout aussi puissant que la classe, et moi, c'est l'hypothèse que je fais, il n'y a pas de raison de ne pas les considérer, les parcours trans, comme des parcours avant tout de mobilité sociale de sexe.
Vous parlez des parcours trans qui sont assez différents d'un genre à l'autre et on se rend compte en fait dans votre livre que les femmes trans font leur transition plus tard que les hommes trans. Comment on explique ça ?
Alors en moyenne effectivement elles transitionnent plus tard dans la vie, autour de 37 ans pour les femmes trans donc et autour de 25 ans plutôt pour les hommes trans. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes trans qui transitionnent pas jeunes, il y en a bien sûr qui transitionnent jeunes, mais il y en a beaucoup, environ la moitié, qui transitionnent quand même à un âge avancé. Et ça, moi, je l'ai analysé comme finalement quelque chose qui était lié à une forme de tolérance asymétrique de la transgression de genre, c'est-à-dire que on va plus tolérer d'une fille qu'elle se masculinise un peu que d'un garçon qui se féminise. Mmh. Pourquoi ? Parce que tout ce qui peut renvoyer chez un homme à une forme de féminité qui viendrait s'immiscer dans la maison des hommes est conçu comme quelque chose de profondément dégradant, ce qui en dit long sur la représentation que on se fait de la féminité, en fait. Il y a une sanction sociale qui est tout à fait immédiate. Et c'est quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu à propos des gays dans les recherches sur l'homosexualité. C'est quelque chose qui est déjà dit, que cette sanction, elle intervient de la part des hommes. Les auteurs de violences sont toujours des hommes, parce que ça provoque chez eux une émotion tout à fait insoutenable, puisqu'ils associent l'homosexualité à une forme de féminité, très souvent. Ça provoque chez eux cette panique. Une panique.
Vous parlez de panique homosexuelle à un moment.
Ce que la théoricienne F. Sedgwick appelle la panique homosexuelle, c'est ça. C'est le fait que l'homosociabilité puisse se transformer en homosexualité, parce que cette frontière, elle est poreuse, évidemment. Donc, c'est ce même phénomène qui fait qu'il y a une forte sanction sociale chez les femmes trans assez immédiatement, en début de transition. Et c'est ce qui en amène beaucoup à, d'une certaine manière, essayer de renoncer à la transition, de rentrer dans le rang, parce qu'elles voient bien pendant la jeunesse que déjà elles peuvent subir des épisodes de violence assez terribles. Et du coup, il y en a qui se disent « en fait, je ne peux pas prendre ce risque ». Après, elles se le disent inconsciemment. Je ne peux pas prendre ce risque. Il faut que je refoule ce désir, c'est pas possible. Et parce qu'elles craignent une rupture familiale, elles craignent la précarité, si elles n'ont pas encore d'emploi stable. Et donc, beaucoup se résignent à rester des hommes, se marier, avoir des enfants, à vraiment rentrer dans le rang. Finalement, transitionnent à un âge avancé, souvent quand elles ont un emploi stable depuis longtemps et une vie de famille.
Comme s'il était super difficile finalement de s'extraire du patriarcat.
D'une certaine manière, après, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est vraiment ce que ça nous dit de la classe des hommes. C'est-à-dire que c'est une classe qui, comme toute classe dominante, est particulièrement solidaire et protège un peu les frontières de sa classe. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de groupes dominants. Il y a des travaux notamment sur les riches qui le montrent très bien, les travaux bien connus de, des Pinsons Charlot, par exemple, qui montrent à quel point, en fait, les riches vont vraiment protéger cet entre-soi et que rien ne doit venir voilà, s'introduire d'étrangers dans, ce, dans, ce, voilà, dans ce, cette classe. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils protègent les frontières de leur classe et que toute forme de féminité, qu'elle vienne d'une femme trans qui deviendrait une femme ou d'un homme trans qui aurait été une femme, eh bien, est tout à fait impensable, en fait, pour beaucoup. Donc,
Et à contrario, les hommes trans transitionnent généralement plus jeunes.
Plus jeunes parce que au début, l'entourage ne s'inquiète pas trop, ce qui donne des transitions beaucoup plus progressives aussi. C'est-à-dire que ça se fait pas au même rythme que pour les femmes trans. En fait, au début, quand une fille commence à se masculiniser un peu, l'entourage a tendance à se dire que c'est un garçon manqué, qui n'a pas d'équivalent, il n'y a pas de fille manquée. Donc, mais garçon manqué, bon, ça passe. Par contre, à la fin de l'adolescence, ça commence à poser des problèmes. Et là, c'est intimement lié à l'hétérosexualité, en fait, parce qu'une fille doit se construire à travers le regard des hommes. C'est comme ça qu'elle devient véritablement une femme. Donc, ça commence à poser problème à la fin de l'adolescence, mais malgré les injonctions qui s'en suivent, eh bien, les hommes trans transitionnent en moyenne tous relativement jeunes, malgré cela. Et ce qui est important aussi de ce point de vue-là, c'est que pour eux, le passage de cette frontière du genre, il n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que moi, je posais volontairement une question très vague du genre comment est-ce que tout a commencé ? Voilà. Et puis, alors, les hommes trans ne savaient jamais le dire quand ça avait commencé. C'était oh, bah, je sais pas, il s'est passé ça, et puis ça, j'ai commencé à m'habiller comme ça, et puis après, il s'est passé ça. Et puis, ils savaient pas le dire, alors que beaucoup de femmes trans savaient précisément quand ça avait commencé. Voilà, il y en avait qui me répondaient, ça a commencé en août 2008.
C'est vrai, parce que c'est si précis.
Ben oui, mais en fait, pas toujours, bien sûr, mais parfois, et ce que je n'ai jamais eu chez des hommes trans, parce que pour elles, elles s'en souviennent très bien de. Parce que la sanction sociale est immédiate.
D'accord.
Alors que pour les hommes trans, c'est plus diffus. Les injonctions pour eux sont plus diffuses. Parce qu'au début, garçon manqué, bon, s'inquiète pas, etc. Alors qu'une marque de féminité chez un homme est immédiatement problématique.
Oui, oui, j'en témoigne. Enfin, je me suis retrouvé à un moment dans votre livre. Effectivement, moi, petit garçon un peu efféminé, j'étais hors catégorie. Je pouvais pas jouer au foot alors que dans ma classe, une copine était assez garçon manqué. Elle pouvait jouer au foot. Il y avait vraiment une sorte de. Et dans votre livre, justement, à un moment, quand vous parlez de cette partie, vous dites même que les parents s'inquiètent moins quand leur fille est un garçon manqué, parce que ce serait signe, alors je vous cite mot un peu comme ça, mais d'intelligence.
Alors, je vais nuancer du coup mon propos par rapport à ça, parce que effectivement, c'est la plupart du temps, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé par les parents, hein, le fait d'avoir une fille garçon manqué, mais ça peut arriver. Dans certains travaux sur la socialisation, sur ce qu'on appelle la socialisation, c'est-à-dire la manière dont on est élevé et éduqué, dans les travaux sur la socialisation de genre, on a effectivement un certain nombre de textes qui montrent que, bah oui, le fait d'être garçon manqué, des fois, ça peut être vu d'un plutôt bon œil par les parents, parce que, encore une fois, la féminité elle-même est considérée comme quelque chose dans notre société de, bah voilà, de subordonné et potentiellement de dégradant. Donc il y en a beaucoup qui se disent, ah bah, peut-être qu'elle est plus intelligente que les autres, voilà, les garçons manqués, donc c'est plutôt un bon signe. Mais ça va que pendant l'enfance et au début de l'adolescence, parce que après les parents s'inquiètent.
D'accord. Hein,
parce que justement, une femme, elle doit sa valeur sociale vient notamment du fait qu'elle voilà qu'elle est avec des hommes, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive parfois, effectivement. Et il y a même dans cette littérature des travaux qui montrent qu'il y a même des parents qui, notamment des parents qui ont des fratries uniquement féminines, qui peuvent en éduquer une d'une manière un petit peu plus souple.
D'accord.
Ce qu'on appelle le garçon manquant, souvent en sociologie.
Ah.
Et que, voilà, alors qu'il n'y a pas de filles manquantes dans les fratries de garçons. Hein. Donc, voilà, il y a une asymétrie de ce point de vue-là.
Dans votre livre, vous revenez aussi sur le parcours trans, à la fois médical et judiciaire, qui est ubuesque. Et à un moment, vous dites, alors cette phrase, elle m'a énormément marqué. vous dites, la médecine s'intéresse davantage aux femmes trans parce que de manière générale, elle se focalise plus sur le corps des femmes considérées comme imparfaites. Ça m'a bluffé. Et comment on peut expliquer ça, en fait?
C'est quelque chose qui s'inscrit dans une longue histoire. Cette phrase-là, elle renvoie en fait à une très longue histoire qui date du XVIIIe siècle, hein, de médicalisation des corps des femmes, davantage que de médicalisation des corps des hommes. C'est-à-dire qu'avant le XVIIIe siècle, les sexes n'étaient pas aussi différenciés qu'aujourd'hui, hein, par la médecine et les sciences. Il y a un historien qui s'appelle Thomas Laker, qui l'a très bien développé dans un livre qui s'appelle « La fabrique du sexe ». Il montre qu'avant ça, en fait, il y avait ce qu'il appelle le modèle du sexe unique, c'est-à-dire qu'on considérait que les femmes étaient des hommes inachevés, qu'elles ne s'étaient pas pleinement développées, ouais, in utero. Et par la suite, effectivement, s'est imposé un modèle des deux sexes. Mais cette idée que les femmes seraient en quelque sorte des corps imparfaits, incomplets, est restée, même si on s'est mis à vraiment différencier les deux. Et à partir de ce moment-là, se sont développées des spécialités, notamment la gynécologie médicale, sans même parler de l'obstétrique, qui n'a pas de réel équivalent masculin, même si l'andrologie existe. L'endocrinologie, bien sûr, tout au long du XXe siècle, même si on a découvert que tout le monde portait les mêmes types d'hormones sexuelles, ça s'est quand même focalisé sur les femmes avec toute la charge contraceptive qui a suivi. La chirurgie sexuelle aussi, en réalité... L'opération qu'on appelle la phalloplastie, qui est une des opérations possibles pour les hommes trans, elle a été inventée très tôt. Elle a été inventée après la Première Guerre mondiale, puisqu'il y avait des soldats qui avaient été mutilés des organes génitaux à la guerre. Et ensuite, cette chirurgie a été plus ou moins oubliée pendant il y a eu très peu de recherches au XXe siècle sur cette chirurgie, alors que la vaginoplastie est intervenue un petit peu plus tard et que c'est ensuite elle qui a rassemblé un peu toutes les recherches. Donc, on peut y voir effectivement pas juste des questions de technologie, mais aussi peut-être que ce phénomène, il nous dit quelque chose de comment on considère les corps aussi des hommes et des femmes, et que les corps des hommes sont considérés comme devant être en tout cas naturellement puissants, naturellement fonctionnels. Il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est les femmes malades et les hommes capables, pour décrire un petit peu ce phénomène. C'est-à-dire que les corps des femmes, oui, on conçoit bien qu'on intervient dessus et qu'ils se construisent et qu'ils ont besoin d'être parachevés d'une certaine manière. Et il y a une très forte asymétrie du coup dans l'intervention de la médecine sur les corps.
Du coup, pour en revenir sur les parcours trans, vous parlez de la voie médicale et judiciaire. Pourquoi aujourd'hui on ne crée pas des collèges d'expertes et d'experts trans quand des personnes veulent transitionner, qu'on ne demande pas l'avis des concernés, ou qu'il y ait des groupes comme ça au sein des médecins, est-ce que ça existe ou c'est pas du tout mis en place?
Ça existe, ça existe dans ce qu'on appelle les RCP, il y a dans les équipes qui prennent en charge les transitions dans le protocole public, il y a des groupes qui intègrent parfois, pour certains, des experts trans. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin et de dire peut-être qu'il n'y a pas non plus besoin d'un comité ou d'un collège d'experts à partir du moment où, dans un certain nombre de prises en charge médicales, corporelles, plastiques, il n'y a pas forcément de processus équivalent, même s'il peut y avoir sur certains plans. À partir de ce moment-là, s'il y a un consentement libre et éclairé, on peut se demander aussi la pertinence de ce type de collège, parce que si effectivement la réponse est négative pour une personne qui souhaite modifier son corps, par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire derrière cette personne qui en a besoin? Donc, la seule chose que ça crée, c'est des inégalités sociales, parce qu'ensuite, la seule voie possible pour ces personnes qui se voient refuser la prise en charge publique, c'est d'aller dans le privé ou à l'étranger à leurs propres frais.
Il y a beaucoup de gens qui en refusent.
Alors, on n'a pas de chiffres, en fait. Hein. Je ne pourrais pas donner de chiffres là-dessus, mais ça arrive. Et bon, ça arrive sans doute de moins en moins, hein, du fait de la présence aussi de personnes trans dans ces comités. Mais il y a encore des critères implicites qui ne sont jamais dits, mais qui sont très présents, comme par exemple celui de l'âge ou celui de la situation sociale, puisque pour pouvoir accéder à des modifications corporelles, il faut pouvoir prouver au psychiatre notamment qu'on est bien intégré socialement déjà dans son sexe demandé, bon, dans sa catégorie de sexe de destination. Or, ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas en emploi stable, qui ont vécu des ruptures familiales et qui sont jeunes et qui sont précaires. C'est des configurations extrêmement fréquentes. Il y a aussi, pour les personnes très précaires, certaines qui pratiquent le travail du sexe. Ces personnes, bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui se dit, en fait, aux professionnels qui évaluent, en fait, la requête. Donc c'est quelque chose qui a plusieurs vitesses et qui, à mon avis, contribue à produire ou à reproduire un certain nombre d'inégalités sociales, ce qui peut être le cas dans le système de santé de manière générale. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve à très forte raison chez les trans, et notamment parce que ce type de protocole peut accentuer même parfois la précarité déjà existante chez les personnes, puisqu'elles demandent des preuves, etc., pour que les personnes puissent avoir accès aux modifications corporelles. Mais sauf que ça aiderait les personnes pour être intégrées si elles avaient déjà les modifications corporelles ou le changement d'état civil. En fait, donc c'est très contradictoire. Ouais. C'est des injonctions tout à fait paradoxales, que ce soit pour ce qui est de l'évaluation psychiatrique, ou du dossier de changement de sexe à l'état civil.
Et concrètement, c'est à peu près combien de temps un parcours trans sans embûches, si vous pouvez utiliser le mot embûche.
Alors là encore, en fait, ça dépend de deux choses. Cette question, c'est difficile d'y répondre pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas forcément quelle est la fin d'une transition. La fin d'une transition, c'est pas du tout la même pour tout le monde. Tout le monde ne conçoit pas la transition de la même manière. Donc, c'est difficile de savoir quelle est la fin. C'est aussi difficile parfois de savoir quel est le début, comme je le disais. Mais en fait, la fin est différente pour chacun. Et il y en a pour qui ne considèrent pas qu'il y a eu une fin ou qui ne sauraient pas la situer. En tout cas, ce qu'on voit, si on prend certains indicateurs, si on prend une population très homogène, comme par exemple des personnes qui ont pu avoir une opération génitale, bon, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pratiqué par tout le monde, eh bien, on se rend compte que là, ça, c'est des durées qui peuvent dépendre entre, par exemple, la prise d'hormones et la première opération, ou entre le coming out et la première opération, voilà. On peut là voir des durées qui sont en fait extrêmement différentes. Ça peut aller de 2 à 6 à 8 ans, parce que ça dépend profondément de la situation sociale et professionnelle de la personne en début de transition. Donc en gros, les transitions les plus longues sont les transitions des personnes qui n'avaient pas une situation professionnelle stable en début de transition. Et la transition n'est jamais aussi rapide que quand on a un emploi stable en début de transition, ou du soutien parental à défaut. Mais c'est pour ça que je dis que ça contribue à renforcer certaines inégalités, parce que justement, une fois qu'on est pris dans ce protocole, on n'est pas sûr de quand on en sort, et entre temps, c'est très difficile de trouver un travail, un logement, parce qu'on n'a pas de papier, etc. Donc voilà, il y a un effet un peu iatrogène, comme on dit, c'est-à-dire que c'est ce qu'on utilise comme terme pour dire d'un médicament qu'il produit et qu'il rend la personne en fait malade. C'est que effectivement ça crée énormément de précarité et d'inégalité par ailleurs.
Dans votre livre, vous développez un point de vue que je trouve très intéressant, et ça concerne le genre dans les classes sociales. Vous expliquez que dans les parcours trans, en changeant de genre, on change aussi de classe sociale. Vous parlez de promotion et de déclassement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, ça c'est des termes que j'emploie et qui sont des termes un peu théoriques, disons, pour désigner cette expérience sociale, mais qui, bien sûr, ne sont pas... C'est pas forcément... La transition n'est pas forcément vécue comme ça par les individus. Donc ça, c'est moi qui pose ces mots-là, parce que ça peut paraître un petit peu violent, hein, de dire ascension, déclassement, donc bon. Mais effectivement, c'est, disons, un prisme d'analyse de la transition, c'est-à-dire que je voulais montrer qu'une transition de genre, c'est pas juste une question d'identité. En fait, on a tendance à le réduire à ça, à une question de voilà, comment on se sent du point de vue du genre, que c'est quoi notre identité de genre. Mais c'est pas, c'est loin d'être que ça. Parce que le genre, c'est pas juste une identité. Le genre, comme la classe sociale, hein, par exemple, puisque c'est l'analogie que je fais, c'est quelque chose qui est tout à fait multidimensionnel. C'est pas juste une identité, c'est aussi tout un tas de pratiques, c'est aussi des représentations, c'est un statut social, c'est une place dans la société voilà, qu'on a. Ça renvoie à un rapport social qui sous-tend des hiérarchies très fortes. Et c'est pourquoi je me suis dit pourquoi pas faire l'analogie entre genre et classe de ce point de vue-là et considérer les transitions comme des parcours de transfuge de sexe. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut considérer d'une certaine manière que les transitions qu'on appelle female to male, donc de femme vers homme, renvoient à une forme de promotion sociale et les transitions male to female à une forme de déclassement. Même si, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué pour différentes raisons. D'abord parce que les trans, de manière générale, sont stigmatisés, marginalisés, etc. Donc, bien sûr, et puis que c'est compliqué de dire, par exemple, que les hommes trans vivent une ascension, point. C'est pas vrai. Ils ont toute une trajectoire de femmes qu'ils ont vécues avant, donc c'est pas le cas. Et c'est compliqué aussi d'un autre point de vue. C'est que je me suis rendu compte pendant ce travail, qui a commencé il y a 10 ans maintenant, qu'au cours de la décennie qui vient de s'écouler, il y a eu aussi de nouvelles revendications, de nouveaux mouvements qui sont apparus, et entre autres les mouvements qu'on appelle non-binaires. Et ça m'a amené à remettre un petit peu en question ce modèle qui peut paraître un peu brut de décoffrage, ascension et déclassement. Je me suis dit, les mobilités sociales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, elles peuvent être de différentes natures, de différentes amplitudes. Il n'y a pas juste deux versants de la mobilité sociale et un point, c'est tout. Les mobilités sociales, elles peuvent donner lieu à toute une diversité de positions de genre, ce que j'appelle des positions de genre, comme on parle de positions de classe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut réduire à juste homme ou femme, à juste des transitions de femme vers homme, ou l'inverse. C'est quelque chose qu'il faut quand même nuancer. Tout cas, c'était des concepts qui ont permis aussi de comprendre en quoi le fait de vivre une ascension ou un déclassement, ce que ça nous dit du genre aussi, ce que ça nous dit, parce que finalement, les trans, c'est les seules personnes à avoir vu le monde des deux côtés de la frontière du genre. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont intériorisé très souvent une forme de réflexivité parce qu'ils voient bien que les choses ont changé dans le regard des gens et dans la manière dont ils sont traités. Et ça, c'était vraiment un observatoire extrêmement puissant aussi des hiérarchies qui se jouent entre les hommes et les femmes. Parce que même pour les personnes non-binaires ou quoi, ils sont forcément vus comme l'un ou l'autre à un certain moment, notamment dans le domaine administratif, professionnel, etc. Et c'est toujours des expériences extrêmement parlantes et de ce point de vue-là, et qui amènent à les personnes à avoir vraiment conscience des privilèges qui ont été gagnés ou des privilèges qui ont été perdus, en fait. Donc voilà, ça nourrit aussi un certain nombre de réflexions féministes, en fait, hein, ce sujet-là. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée que ça pouvait apporter énormément aux études féministes, hein, puisque c'est mon cadre de pensée aussi. Outre les clivages qu'il peut y avoir parfois et les débats, les controverses autour de la place des trans dans les milieux féministes et dans les études féministes, moi, je défends vraiment l'idée que c'est des expériences qui sont très importantes, en fait, pour continuer d'avancer d'un point de vue féministe.
Oui, vous avez d'ailleurs le témoignage à un moment de... je ne sais plus si c'est Camille, je ne me souviens plus du prénom, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui est une femme trans, ingénieure en informatique, qui, quand elle est arrivée en tant que femme trans, on lui a réexpliqué son métier plus ou moins, en fait. Mmh. Et c'est vrai que c'est faire l'expérience de la misogynie ou du machisme des deux côtés, en fait. Mmh. Et c'est assez bluffant.
Ben oui, c'est sûr que oui, c'est l'histoire de cet ingénieur en informatique à qui on a ses collègues apprennent désormais, essayent de lui mansplainer comment marche un ordinateur finalement. Et l'inverse est vrai pour les hommes trans. Hein, ouais. Voilà, enfin pas eux, ils vont pas mansplainer par contre, mais on va leur accorder plus de crédit, etc. Mmh. Donc et effectivement c'est voilà, cette réflexivité, elle accompagne forcément la transition et elle produit des choses parce que évidemment une transition, c'est pas passer de l'un à l'autre et oublier ce qu'on a vécu avant. Bien on sûr, emmène ses bagages avec soi quand on passe une frontière. Donc c'est quelque chose qui amène les femmes trans, notamment Camille m'en parlait par exemple. Et voilà, comme beaucoup d'autres femmes trans qui ont transitionné pas si jeunes que ça, elle repense souvent. Elle me disait à comment elle se comportait en tant qu'homme avant et que c'était des questions qu'elle se posait pas du tout. Et que oui, c'est vrai, elle parlait plus avec des hommes, elle mettait pas les femmes dans le cœur de l'action. Voilà, elle voit bien que, ça amène beaucoup de réflexivité en fait sur ce passé et dans le cas des hommes trans, une certaine culpabilité aussi puisque
oui, ce que vous expliquez, voilà,
qui est pas propre aux hommes trans, mais qui est propre à beaucoup de transfuges en ascension finalement, qui amène voilà une certaine difficulté d'acculturation dans le groupe d'arrivée parce que voilà il y a le spectre de la trahison de classe, classe de sexe, ouais. qui plane un petit peu au-dessus et c'est très fort et ça façonne les pratiques en fait. Hein. C'est concrètement les hommes trans par exemple ont un entourage qui reste féminin par exemple. Il y a vraiment un malaise dans l'entre-soi masculin pour eux quoi. Hein. Donc ça amène beaucoup de réflexivité sur la masculinité en fait.
Ouais, bien sûr.
Que ça soit celle d'avant ou celle de maintenant, c'est quelque chose que ça vient interroger.
Et justement, alors concernant le genre, vous avez parlé d'un genre en plusieurs dimensions, en espèce de plusieurs dimensions, et vous établissez trois distinctions de genre, les conformes, les stratèges et les non-binaires. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi, enfin comment vous en êtes arrivé là et ce que c'est ce qu'il y a derrière ces mots?
Oui, alors le fait de penser en plusieurs dimensions, ça renvoie à un type d'analyse statistique où on peut penser en plusieurs dimensions. Voilà, on pense à partir de plein d'indicateurs différents, en l'occurrence des indicateurs de genre. Et c'est cette méthode-là qu'employait Pierre Bourdieu quand il a conceptualisé ce qu'il appelle l'espace social de classe, dans lequel il a montré qu'il y a pas juste des bourgeois et des prolétaires, mais que c'est plus compliqué et moins binaire que ça, qu'il y a plein de types de capitaux différents, qu'il y a des structures de capital différents, etc. Et donc c'était pour avoir un petit peu le même raisonnement que j'ai essayé de cartographier cet espace social du genre ici. Et c'est à l'échelle des trans, donc c'est quelque chose qui peut être fait à l'échelle de l'ensemble de la population, mais qui là porte spécifiquement sur la population trans. Donc, j'avais pas non plus énormément d'indicateurs dans l'enquête sur laquelle je travaille. Et donc, il en est ressorti très clairement trois grands groupes de ce modèle. Mais bon, maintenant, je travaille là-dessus au niveau de l'ensemble de la population, donc ça sera beaucoup plus complexe. Mais c'est en réalité beaucoup plus complexe que ça. Et ce qu'il faut bien montrer, c'est que c'est un modèle théorique, c'est un modèle idéal typique. Donc évidemment, c'est normal que les individus ne se reconnaissent pas là-dedans, parce que c'est vraiment un peu une caricature de la réalité sociale. Mais en tout cas, effectivement, ces trois grands groupes qui sont apparus de manière très très claire, je les ai appelés les conformes, les stratèges et les non-binaires. Et donc, les conformes, c'est plutôt les personnes que beaucoup appellent les binaires, voilà, qui se reconnaissent comme hommes ou femmes, qui font beaucoup les opérations, qui changent leur état civil, qui militent pas, etc. Et les stratèges, c'est des personnes souvent plutôt précaires, en fait, se disent plutôt hommes ou femmes, mais un peu moins, qui ont recours quand même pas mal aux opérations, au changement d'état civil, et qui surtout consultent beaucoup les associations pour avoir des infos médicales et juridiques, en fait, pour arriver à avoir un usage un peu stratégique du genre face aux experts qui sont censés les évaluer. Donc ils vont voir dans les assos qu'est-ce qu'il faut dire au juge, qu'est-ce qu'il faut dire au psychiatre, comment il faut performer son genre, comment il faut faire genre en fait, pour s'en sortir justement, parce que c'est des personnes qui correspondent pas bien aux critères de ces institutions, puisqu'elles sont souvent précaires et jeunes. Donc voilà, et puis enfin il y a le groupe des non-binaires qui lui est un groupe dans lequel on trouve des personnes qui se disent plutôt trans, queer, non-binaires, qui ont moins recours aux modifications corporelles, au changement d'état civil et qui militent beaucoup. C'est un groupe très militant. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est que ça a permis du coup de voir un peu quel était le profil social des personnes non-binaires. Et c'est beaucoup des jeunes générations, en fait. C'est beaucoup des jeunes. Les non-binaires, une nouvelle génération qui met en question, en fait, cette bicatégorisation de genre. C'est aussi un peu plus des personnes qui ont été assignées au féminin à la naissance, donc qui ont longuement été socialisées en tant que femmes, et qui aussi... ont un petit peu de réserve à se dire homme. Disons que c'est compliqué pour une personne, ça peut être pour certaines personnes compliqué de se dire véritablement homme, ou encore homme hétérosexuel, pour une personne qui a été auparavant une femme. Ça peut être justement, là encore, il y a le spectre de la trahison de classe, etc. Donc voilà, et puis c'est aussi un groupe qui est souvent très diplômé. Par ailleurs,
très politique aussi,
et très politisé, ce qui va souvent de pair. Hein, on le voit bien au-delà de l'échelle des trans dans les travaux sur les mobilisations collectives. Ça permet de comprendre aussi un peu les ressorts de la non-binarité, qui renvoie aussi une certaine forme de modernité, on a compris que le genre c'est plus compliqué que ça, qui devient maintenant quelque chose d'incontournable chez les jeunes. Très clairement, chez les collégiens, lycéens, étudiants, c'est quelque chose qui est là en fait. D'accord. Et les générations précédentes ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. Et en fait, ça amène des injonctions d'ailleurs de la part des parents et des aînés de manière générale, et même des personnes trans plus âgées en fait aussi, parce que l'espace social c'est très relationnel. Les personnes luttent entre elles et se positionnent les unes par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qui est très porté par les jeunes et qui, à mon avis, j'en suis persuadé, dans les années à venir, va devenir quelque chose de tout à fait incontournable. En fait, il y a des choses qui vont changer parce que c'est très clairement un enjeu en fait pour les jeunes.
Oui, parce qu'à un moment dans le livre, vous parlez en 2017, il y a eu un début de débat sur un genre neutre ou un troisième genre, mais très vite arrêté. Oui. Alors que, en vous écoutant, je me dis que si c'est des jeunes qui portent cette non-binarité, dans quelques années, pourront peut-être faire changer les choses. Comment on explique qu'en France, on n'arrive pas à se au moins créer si ce n'est retirer le genre, au moins créer un troisième genre à l'état civil.
Alors, ça a été discuté effectivement en 2017, et puis la Cour de cassation a rejeté cette proposition de sexe dit neutre, au motif que elle a rappelé en tout cas qu'il y avait seulement deux catégories de sexe dans le droit. Et cette troisième catégorie, elle a été instaurée dans d'autres pays, depuis quelques temps. Et moi sur ce sujet, je suis un petit peu partagée. Parce que je pense qu'il faudrait aller plus loin. Parce que je pense que un troisième sexe à l'état civil, ça ferait peut-être que rappeler qu'il y en a deux qui sont vraiment légitimes, quoi. J'ai tendance à me méfier de cette idée de troisième sexe qui est par ailleurs très connotée. Ça a été employé déjà dans plein de contextes différents historiquement. Et donc, j'aurais tendance à penser que peut-être les personnes qui portent cette catégorie de sexe en fait, pourrait être facilement discriminé en fait pour cette raison. Et donc moi, je sur ce point, je serais plutôt favorable à une suppression de la mention de sexe sur les papiers d'identité, parce que finalement, elle ne sert pas à grand chose et qu'en plus historiquement, elle est très récente. Ça date du régime de Vichy, dont on connaît un certain nombre de politiques extrêmement problématiques et notamment du point de vue du genre. Donc, avant, on s'en passait. Je ne vois pas vraiment ce qui fait obstacle à cela.
Bon. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà retiré sur leur papier? Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas de genre sur leurs états civils?
Alors, je ne veux pas te dire de bêtises. J'en ai pas, ai pas en tout cas qui me viennent.
C'est pas... D'accord. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Alors, parce que visible, ça appelle à la visibilité. Je voulais savoir si vous n'avez pas des conseils culture à nous transmettre et à transmettre aux auditeurs et aux éditrices autour, autour des trans.
Il y a de plus en plus maintenant de choses disponibles en français qui ont été traduites. Je pense notamment au travail de Julia Serrano, qui est une femme trans qui elle-même est chercheuse en biologie, mais qui par ailleurs a beaucoup écrit sur le sujet. Et il y a un de ses ouvrages qui est très important à mon avis, et dont moi je me suis beaucoup inspirée en tout cas, qui vient d'être traduit en français, donc qui est sorti. Voilà, le travail de Julia Serrano. Et puis je pense aussi à un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Stone Butch Blues, hein, qui dit beaucoup de choses, qui a été traduit aux éditions Hystérique et Associés. C'est un livre écrit par Leslie Feinberg, qui est une grande figure historique du mouvement trans. Qui pouvait se voir à la fois comme butch et comme trans, hein, bon. Et c'est l'histoire de un peu de voilà de ce que c'était que d'être trans à une autre époque aussi, dans un autre contexte, une histoire de violence, une histoire de voilà aussi de travail en milieu populaire aussi, qui rappelle que voilà il y a des personnes trans qui se trouvent dans n'importe quel groupe social de la population, c'est pas forcément les plus visibles. Hein. Et qui montre aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire ce qui se passe en amour, en amitié, en fait, ce dont on parle peut-être un petit peu moins à propos des trans, mais en tout cas, c'est vraiment une lecture que je recommande et qui est sortie en français.
D'accord, merci infiniment, merci beaucoup pour votre livre. Je conseille à tout le monde, évidemment, de le lire. Merci, Emmanuel Boppel.
Avec plaisir, merci à vous.
Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Veuillez regagner votre siège et attacher votre ceinture. Votre commandante de bord, Sophie, va vous raconter son voyage en patriarcat.
Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, pas de coup de gueule, mais un coup de cœur. Et oui, mes sœurs, quelle joie de vous voir réunies le 25 avril dernier pour la marche lesbienne. Comme quoi, les lesbiennes peuvent être fun et sortir de chez elles et faire la fête. Et donc, le 25 avril dernier, c'était un dimanche et une joyeuse manifestation à l'initiative de l'association Collage Lesbien, dans le sillage des lois de bioéthique avec le rejet récent de la part du Sénat de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Un sujet grave donc, mais une manifestation très joyeuse. En plus, fait exceptionnel, il faisait beau et chaud, c'est incroyable. La date n'était pas choisie au hasard, puisque c'était celle de la visibilité lesbienne et pas moins de 10 000 personnes ont participé à la marche. J'ai noté plusieurs choses. Des couples de mères étaient présentes avec leurs enfants. Des pancartes à messages ont attiré mon attention. Évidemment, des odes à Alice Coffin, Céline Sciamma ou Virginie Despentes, mais aussi des appels à se libérer de l'hétérosexualité. Oui, libérez-vous, mes sœurs, de ce régime politique qui vous oppresse. Découvrez le partage des tâches sans prise de tête. La joie de ne pas avoir à prendre une contraception, les balades en camion, le camping en temps de quechua, manger des graines, je m'égare. Bref, ayez l'air épanoui comme Camille Cotin dans Brout, je vous conseille cette vidéo, et devenez lesbienne, et surtout luttez fort contre le patriarcat et ses tentatives pour nous diviser et surtout nous invisibiliser. Allez, bisous, à la prochaine.
Merci ma sœur. C'était Visible, on se retrouve le mois prochain, à bientôt.